Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Faites tout ce qu'il vous dira. Ces paroles que la Sainte Vierge a adressées aux serviteurs, aux noces, elle les adresse à nous tous. Il faut faire tout ce que Jésus nous demande par la voix de son Église. Pas seulement les choses qui nous plaisent ou qui sont faciles, mais tout, même si nous avons du mal à comprendre. Dans la tradition, nous essayons de conserver la doctrine et la morale catholique dans leur intégrité, sans compromis aucun avec le monde, sans rien laisser de côté. Et pour cela, nous nous référons volontiers aux papes d'autrefois, qui sont pour nous de grandes autorités. Mais il y a un sujet sur lequel l'Église s'est prononcée avec solennité, et puis même avec véhémence, et qui pourtant semble oublié aujourd'hui, même dans les milieux de la tradition. Il y a environ 100 ans, à partir des années 1920, les papes mettaient les fidèles en garde contre de nouvelles modes indécentes qui, et je cite une lettre publiée par Pie XI, qui offensent gravement la dignité et la grâce féminine et qui entraînent des dommages temporels pour la femme, sa perte éternelle et celle des autres. Et comme vous savez, à la même époque, Notre-Dame de Fatima révélait à la petite Jacinthe qu'il viendrait des modes qui offensent beaucoup notre Seigneur. Le sujet de la modestie chrétienne est un sujet très vaste, d'autant plus que ce sujet rejoint un autre sujet encore plus vaste et plus riche, celui de la mission et de la dignité incomparable de la femme chrétienne. Mais nous nous limiterons à quelques brèves considérations qui sont suffisantes pour convaincre une âme de bonne volonté et qui cherche sincèrement la vérité. Et notons au passage que tous sont concernés, dames, jeunes filles, pères de famille, jeunes gens. Alors d'abord, des arguments d'autorité. Le pape Benoît XV, qui régnait de 1914 à 1922, était le premier. Donc, dès 1919, il sonne l'alarme dans une allocution sur la mission de la femme dans la société. Je vous le cite. Nous croyons devoir insister d'une manière particulière sur ce point. Nous savons, d'une part, que certaines toilettes aujourd'hui admises chez les femmes sont nuisibles au bien de la société, car elles sont une funeste provocation au mal. Et d'autre part, nous sommes remplis d'étonnement, de stupeur, en voyant que celles qui versent le poison semblent en méconnaître les néfastes effets, que l'incendiaire qui met le feu à la maison semble en ignorer la puissance de dévastation. L'ignorance seule peut expliquer la déplorable extension prise de nos jours par une mode si contraire à la modestie, le plus bel ornement de la femme chrétienne. Mieux éclairée, il nous semble qu'une femme n'eût jamais pu arriver à cet excès de porter une toilette indécente jusque dans le lieu saint. Et puis 2 ans après, en 1921, dans son encyclique Sacra Propedium, il dit « Nous ne pouvons assez déplorer l'aveuglement de tant de femmes de tout âge et de toutes conditions que le désir de plaire a rendu insensé. Elles ne voient pas à quel point l'indécence de leurs vêtements choque tout honnête homme et offense Dieu. La plupart d'entre elles auraient autrefois rougi de ces toilettes comme d'une faute grave contre la modestie chrétienne. À présent, non contentes de les exhiber sur les voies publiques, elles ne craignent pas de franchir ainsi le seuil des églises ni d'assister au saint sacrifice de la messe, ni même d'aller porter l'aliment séducteur des passions honteuses jusqu'à la table sainte où l'on reçoit le céleste auteur de la pureté. Nous sommes en 1921. Alors, son successeur, Pie XI, à la fin des années 20, dans deux encycliques, quand le pape énumérait les causes profondes des grands maux qui tombaient sur la société, parmi ces causes, il nomme, je cite, « le triste oubli de la modestie chrétienne, spécialement dans la vie et la tenue vestimentaire des femmes. » Et ailleurs, dans la deuxième encyclique, « dans la vie courante et dans les modes, surtout féminines, la pudeur chrétienne est lamentablement oubliée. » Le pape avait peut-être connaissance de ce qu'un franc-maçon écrivait à la même époque. La religion ne craint pas la pointe du poignard, mais elle peut s'écrouler sous le poids de la corruption. Ne nous lassons pas de corrompre. Nous pouvons user de prétextes tels que le sport, l'hygiène, la santé. Il est nécessaire pour corrompre d'amener nos garçons et nos filles à pratiquer le nudisme. Afin d'éviter une trop grande réaction, cependant, il faut procéder avec méthode, découvrir d'abord jusqu'au coude, puis jusqu'aux genoux, puis dénuder entièrement bras et jambes, plus tard le haut du buste, les épaules, etc., etc. Et puis le pape avait certainement connaissance des plans des francs-maçons de la haute vente qui ont été révélés au XIXe siècle, où ils disent « Pour détruire le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Mais comme nous ne pouvons supprimer la femme, employons-nous à la corrompre. » C'est pourquoi, dans cette même année, 1928, le pape Pie XI lance une croisade mondiale pour la modestie. Mais arrêtons-nous à ces citations des papes des années 20 et réfléchissons un tout petit peu. Ces papes ne parlent évidemment pas du mini-jupe et des débardeurs. N'importe qui peut consulter les photos de l'époque pour constater qu'il s'agit des jupes qui couvraient encore les genoux. Les directives données en 1928 par le cardinal Pompili, vicaire général du pape Pie XI, ne laissent aucun doute justement sur ce sujet. Je le cite. Nous rappelons que l'on ne peut considérer comme décent un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au-dessous de la naissance du cou. Un vêtement dont les manches ne couvrent pas les bras au moins jusqu'au coude et qui ne descendent qu'un peu sous le genou. Sont également indécents les habits faits d'étoffe transparente. Et alors tout cela, il s'agit d'un minimum. En 1930, le pape a fait publier une lettre exhortant tous ceux qui ont charge de la jeunesse à insister sur la modestie. Et ce document conclut ainsi. Les femmes et les jeunes filles vêtues de façon immodeste doivent être exclues de la Sainte Communion et refusées comme marraines de baptême et de confirmation. De plus, selon les circonstances, on peut même leur interdire d'entrer dans l'Église. C'est pour obéir à ces directives que nous avons mis l'affiche sur le portique qui demande que les jupes couvrent franchement les genoux, c'est-à-dire 20 cm en dessous. Chers fidèles, il faut être logique. Nous ne pouvons pas citer le pape Pie XI quand il écrit Quas primas sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis oublier tout ce qu'il dit sur la modestie dans ses autres encycliques. Car dans les deux cas, il ne fait que rappeler l'enseignement traditionnel de l'Église. On ne peut pas être traditionnaliste pour certaines choses et libéral pour une autre. En ce cas-là, on est un libéral tout court. Et citons René Bazin. Il dit, en temps de révolution, ceux-là seuls sont utiles qui refusent tout. Tous les autres font le jeu. Alors voilà pour l'argument d'autorité. Voyons maintenant quelques arguments qui relèvent de la foi et de la raison. Alors d'abord, il faut être vêtu modestement par respect pour soi-même. Que voit-on dans la nature? Les choses de grande valeur sont cachées. On ne trouve de l'or ou de diamants qu'après de très grands efforts. Les perles sont cachées au fond de la mer. Or, la femme est un trésor pour la société. Son âme est faite pour le dévouement et son corps est un sanctuaire de la vie. Mais le mystère de la vie doit être entouré de respect et de vénération, avec une sorte de crainte révérentielle. Ce n'est pas quelque chose qu'on brade. Et combien plus cela est vrai pour une chrétienne qui est le temple du Saint-Esprit. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, dit notre Seigneur. Et puis le père Calmel a ces paroles assez fortes. C'est parce que ces femmes n'ont plus le sens de la pureté, se considèrent sans respect et acceptent leur profanation, qu'elles se laissent entraîner par des modes honteuses, qu'elles prennent conscience qu'elles sont sacrées et que le vêtement est chose sacrée, alors seulement elles cesseront de faire comme tout le monde. Et puis ensuite, c'est à cause du scandale pour les autres. Une tenue légère et immodeste suscite des tentations dans ceux qui la voient. Et c'est particulièrement grave à l'Église. Et cela est vrai même s'il n'y a aucune mauvaise intention de la part de celle qui est courtement vêtue. C'est un fait. C'est peut-être difficile à comprendre, surtout pour celles qui ne sont pas mariées, mais c'est un fait. Et si vous ne comprenez pas, est-ce que vous avez essayé de comprendre? Est-ce que vous avez lu des choses là-dessus? Est-ce que vous avez étudié les questions? Des manuels de théologie morale, par exemple, ou les écrits des saints, comme saint Alphonse de Ligorie, les plaquettes écrites par les prêtres, prédicateurs de retraite et confesseurs d'une longue expérience. Est-ce que vous avez lu ne serait-ce qu'un seul des innombrables bulletins de prieuré qui traitent de ce sujet? Mais en fait, en fin de compte, on n'a pas besoin de tout comprendre. Une femme ne comprendra jamais tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. Pas plus, d'ailleurs, qu'un homme ne comprendra ce qui se passe dans la tête d'une femme. Il faut avoir l'humilité de se dire, cela me dépasse, mais je ferai cet effort par charité pour mes frères en Jésus-Christ. On m'a raconté une histoire hier d'un jeune homme qui assistait à la messe Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Et là, il était à la messe et devant lui, il avait pendant toute la messe une fille qui était mal habillée. Et ça l'a troublé. Et puis au moment de la communion, elle se lève pour aller communier. Et il lui demande, vous allez communier? Elle dit oui. Et là, il a dit, vous avez la chance. Moi, à cause de vous, je ne peux pas communier. Alors, il est vrai, il y a des garçons qui vous diront, cela ne me fait rien de te voir vêtu comme ça. Mais demandez à un cambrioleur s'il faut fermer votre maison à clé et il vous dira non, ne t'inquiète pas, ça ne craint rien. Alors, la réponse à quelques objections. On dit, il faut se conformer aux usages de son temps. C'est vrai, les saints se sont conformés aux usages et aux coutumes de leur temps. Mais les usages qui n'étaient pas contraires à la loi de Dieu. La très sainte Vierge Marie, sainte Clotilde, Blanche de Castille, sainte Maria Goretti, ont vécu à des époques très différentes. Et donc, elles s'habillaient selon la mode de leur pays à l'époque où elles vivaient. Leurs habits variaient dans les détails, mais pas dans ce qui est essentiel aux vêtements. C'est-à-dire, ce vêtement couvrait le corps. La mode dénudée actuelle est en rupture totale avec la pratique universelle du peuple chrétien jusqu'aux années 20. Et encore, un grand nombre de femmes ont résisté à ce changement. En particulier, la majorité des traditionalistes jusqu'à une date récente. Donc, réfléchissons encore. Faut-il se conformer à un monde satanique, révolté contre Dieu et contre l'ordre naturel établi par lui? Aujourd'hui s'affichent publiquement des péchés tellement immondes qu'on ne peut même pas les nommer. Le vol, le meurtre, les pratiques contre nature sont institutionnalisées. Est-il vraiment raisonnable de croire qu'une telle société pourrait produire des modes vestimentaires convenables? Pourquoi ce domaine demeurerait-il intouché alors que tout le reste est pourri? Au contraire, le vêtement traduit exactement l'esprit d'une société. Et il n'est pas logique de se conformer au monde en ce qui concerne l'habillement et rejeter tout le reste. Bien sûr, il est difficile d'attirer le regard parce qu'on n'est pas habillé comme les autres. Mais normalement, il devrait y avoir une multitude de choses qui nous font remarquer de nos contemporains, qui nous différencient. Notre langage, nos choix de musique, de loisirs, nos choix d'études, notre vie de prière, le fait de dire la bénédicité avant le repas, faire un signe de croix devant les calvaires, aller à la messe le dimanche. Si le vêtement est la seule chose dans votre vie qui pourrait vous distinguer des non-catholiques, cela veut dire qu'il y a un très gros problème. Donc oui, c'est difficile, c'est un vrai martyr à petit feu. Mais écoutons ces paroles de notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Après, parfois on dit « La modestie n'est pas une question de centimètres. C'est ridicule de chicaner pour des centimètres. » Alors d'abord, bien sûr que c'est une question de centimètres. Nous sommes des êtres humains avec un corps, cela se mesure en centimètres. C'est impossible de parler de ces choses-là sans faire intervenir des mesures. Et pour ce qui est des chicaneries, qui est-ce qui chicane? N'est-ce pas chicaner que de porter une jupe qui descend pile ras les genoux? Une telle attitude montre à l'évidence qu'on a mesuré à un centimètre près jusqu'où on peut aller. Et d'ailleurs, la question va beaucoup plus loin que la simple modestie. Quel est le but de notre vie? Est-ce que c'est de faire le strict minimum requis pour éviter l'enfer? Ou est-ce que c'est faire tout ce qu'on peut pour plaire au bon Dieu? Puis juste une dernière objection. Bon, c'est certainement pas une liste exhaustive, mais une autre objection. Il faut bien que je trouve un mari. Ou il faut bien que ma fille trouve un mari. Alors, oui, Donc, il faut que les jeunes filles soient belles. On n'interdit pas ça. Mais une chose est d'être avenante, autre chose est d'être aguichante. Et si vous voulez un mariage qui dure, attirez votre futur époux par des qualités qui durent, comme la générosité, la bonté, la pureté, la patience, et non pas par des charmes corporels qui passent comme l'herbe des champs. Alors, pour finir, d'abord, nous remercions sincèrement toutes les dames et les jeunes filles qui font des efforts pour garder la modestie chrétienne, et les chefs de famille qui font leur devoir en cette matière. Pour ceux qui commencent peut-être à flancher, à hésiter, tenez bon, la vie est courte et votre épreuve prendra bientôt fin. Et Dieu récompensera votre courage. Quant à une conclusion pratique à tirer, eh bien, elle est affichée sur le portique. L'affiche qui rappelle les règles de modestie. Une bonne résolution serait de se conformer désormais à cette affiche. Et pour que les hommes et les jeunes gens ne pensent pas qu'on les oublie, on doit les mettre en garde contre la mode débraillée. On a vu depuis un certain temps, de plus en plus de jeunes gens viennent à la messe en jean et en basket. Ça ne convient pas. Sachez que tous les pères sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos objections. Puis on va juste finir avec une belle citation de l'abbé Edward Pope, celui qui a créé la croisade eucharistique, parce qu'il formait aussi des jeunes filles catéchistes. Et voilà quelques conseils qu'il leur donne. Mais surtout, jeunes filles chrétiennes, mortifiez-vous dans vos toilettes. Ne soyez pas de ces demi-chrétiennes qui, tout en n'osant pas suivre la mode dans toutes ses audaces, la suivent malgré tout de loin. Ah, soyez courageuses et habillez-vous décemment, chastement. Couvrez vos bras et votre cou. Allongez votre robe comme il convient à une jeune fille vraiment chrétienne. Habillez-vous décemment. Dussiez-vous être les seuls de votre paroisse à le faire. Faites-le. Jésus et Marie Immaculée vous en récompenseront. C'est de la mortification que viennent les forces secrètes, les consolations inattendues, la confiance. Et nous avons tant besoin de tout cela pour devenir bons nous-mêmes et pour rendre les autres meilleurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.